Quartz Livre, Jean-Marie Félix.
Bonjour Quentin Mouron.
Bonjour.
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés autour d'un micro, c'était il y a presque 2 ans. À ce moment paraissait aux éditions Olivier Moratel votre dernier roman intitulé Vesoul le 7 janvier 2015. Et je me souviens qu'en début d'entretien, nous avions parlé d'un mémoire de master que vous étiez en train, je crois, de terminer à cette époque-là, autour de la figure sulfureuse de Jean Lorrain, cet auteur français très fin de siècle, associé à la littérature décadente. Nous voilà donc 2 ans plus tard, votre éditeur originel Olivier Moratel publie un livre hybride dans lequel on trouve votre mémoire de master intitulé Jean Lorrain ou l'impossible fuite hors du monde. Et cet essai, c'est la particularité de ce livre, est suivi d'une réédition d'un roman paru en 2016 chez un autre éditeur intitulé L'âge de l'héroïne. Un essai et un roman publié dans un même volume, c'est un projet éditorial tout à fait original dont il faudrait revenir aux origines. Comment tout cela s'est agencé avec votre éditeur? Faisons un peu la genèse de ce projet, pas comme les autres.
Si on commence vraiment par la vraie genèse, il y a déjà l'écriture. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur ce mémoire qui avait déjà finalement la forme d'un essai, j'ai eu la chance de travailler avec Antonio Rodriguez à l'Université de Lausanne.
À ce moment-là, vous pensiez déjà le publier?
Oh, je pense toujours à publier tout ce que j'écris, ça c'est mon côté orgueilleux.
Vous n'aviez encore jamais publié d'essai, donc c'était une nouveauté.
Voilà, ça c'était exactement une nouveauté. Et puis, là, en discutant avec Antonio Rodriguez, il me dit « Mais c'est bien de faire un mémoire, mais pense-le peut-être déjà comme un essai. » De toute façon, je crois qu'on s'était déjà un peu fréquenté aussi, puisqu'il est aussi poète, il organise beaucoup d'événements. Donc, on avait un rapport de confiance qui était, je pense qu'il savait que j'allais faire du bon boulot. Et puis, moi j'étais assez content d'avoir qu'on me lâche un petit peu la bride. Donc j'ai travaillé vraiment, j'ai pensé ce texte comme un essai, en me pensant en effet que peut-être il serait publié, mais c'était pas urgent, c'était une idée comme ça. Je me disais peut-être que ce sera publié un jour. Et puis parallèlement à cet essai, j'étais aussi en train de travailler sur l'âge de l'héroïne. J'avais déjà convoqué cette décadence littéraire au moment d'écrire 3 gouttes de sang, un nuage de coke. Et puis là, bon, les deux textes ont suivi des chemins très différents. L'un a été défendu dans le cadre de ma fin de master, l'autre a été publié aux éditions de La Grande Ourse.
Aujourd'hui n'existe plus.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et donc, l'âge de l'héroïne ne figurait plus dans aucun catalogue. Il n'avait pas été publié, contrairement à 3 gouttes de sang en poche. Et donc, en fait, personne, il était introuvable. Et Olivier Moratel m'avait déjà dit, mais j'aimerais bien une fois le republier, parce que c'est un livre que j'adore. Et donc, je pense que ça serait intéressant de le publier. Et puis, en discutant, on a ébauché l'idée de republier l'âge de l'héroïne. Mais je lui ai dit, moi, si je le republie un jour, je veux le retoucher, parce qu'il y a des choses qui me tirent l'œil.
Vous l'avez entièrement remanié, ce texte.
J'ai coupé les gens, arraché les mauvaises herbes, disons.
C'est-à-dire la première partie, l'ouverture baroque, que vous avez nettement retranchée et écourtée.
Alors j'ai remis la tête sur les épaules de la libraire, qui était décapitée dans la première version, et puis j'ai quand même enlevé un morceau significatif, si j'ose dire, non pas de la libraire, mais de l'ouverture. C'est exactement. Ça, c'est ce qui a changé. Donc ça, c'était ma condition pour republier ce texte. Et puis, comme il était quand même plus court, on s'est dit, bon, on peut publier ça comme une petite nouvelle, un petit format, ça pourrait être amusant. Et puis, on parlait de la jeunesse de l'âge de l'héroïne, des auteurs décadents, on est venu sur le sujet de Jean Lorrain, puis j'ai dit à Olivier Moratel, j'ai dit, mais en fait, j'ai aussi dans mon tiroir un essai, puis il m'a dit, mais ça m'intéresse, envoyez-le-moi. Puis il a adoré découvrir Jean Lorrain, il s'est mis à lire fiévreusement Jean Lorrain, et puis avec la fougue et l'enthousiasme qu'il caractérise, il m'a dit, mais on s'en fout finalement des genres établis, on n'a qu'à prendre ces deux livres et les mettre en un, parce que c'est pas comme si on mettait des livres au hasard dans un même volume. Là, on met quand même un essai qui porte sur la décadence et un roman que moi, j'avais jamais aimé appeler polar, qui est en fait un roman décadent avec toutes sortes de références à la décadence littéraire. Donc, on s'est dit, mais c'est parfait, ça tombe bien. Et on les a publiés ensemble. Ça a été d'intenses discussions pour savoir si on mettait plutôt le roman d'abord, ce qui aurait été plus commercial, si on mettait l'essai avant, ce qui était beaucoup moins commercial, mais on avait envie de refaire un livre ensemble. Je crois que ça, c'est ce qu'avec Olivier Moratel, on se connaît depuis longtemps. On avait envie de faire encore un livre. Et puis, on s'est lancé vraiment comme ça, sans ambition commerciale particulière. C'est pas tout public, disons, comme texte.
En tout cas, pas grand public.
Pas grand public, voilà, exactement. C'est peut-être pas grand public, même si d'ailleurs, on peut aussi prendre plaisir à découvrir cet auteur. C'est un livre pour nous aussi, c'est un livre parce qu'on aime la littérature et que c'est un livre qui parle de littérature.
Est-ce que le fait de publier dans un même volume, d'abord l'essai et ensuite le roman qui s'y rattache, est une manière de reconnaître votre source d'inspiration et peut-être aussi une reconnaissance de dette envers celui qui vous a inspiré et qui vous a beaucoup séduit, c'est-à-dire Jean Lorrain?
Oui, je crois qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est un auteur, Jean Lorrain est un auteur fascinant, inégal, sans doute, mais comme tous les auteurs, j'allais dire, de la fin du 19e siècle, mais en fait comme tous les auteurs, parce que Balzac, c'est pas très égal non plus, on lit toujours les mêmes romans d'ailleurs. J'ai bien sûr toute la comédie humaine chez moi, il y a des romans qui sont un peu faiblards. Bon, Laurent aussi, il y a des romans qui sont un peu faiblards. Mais c'est un auteur qu'on a oublié,
Ça, contrairement à Balzac. Justement.
Contrairement à Balzac, exactement. Contrairement à Huysmans, ce qu'on a redépoussiéré récemment. Contrairement à Oscar Wilde, bien sûr, flamboyant. Contrairement à Baudelaire, bien évidemment. Et à Zola et à d'autres auteurs comme ça de la fin de ce 19e siècle. Lorrain, lui, pourtant, c'était peut-être le plus flamboyant de tous quand il était vivant. Puis voilà qui s'éteint. Il reste une curiosité littéraire jusque dans les années 30. Les gens se souviennent. Il y a les Rachilde est encore vivante. Elle se souvient. Colette se souvient. Paul Morand dit des horreurs sur Lorrain. Bref, tout le monde se souvient, comme on dit. Et puis après, grande disparition. Dans les années 70, il y a quelques livres qui reparaissent. Il y a épisodiquement un petit mélange. Il y a quelques éditeurs courageux ressortent les textes de Lorrain, mais ils sont très difficiles à trouver malgré tout. Et sa poésie a été parue, poésie complète, il y a quelques temps. Mais ça reste très, très, très morcelé. Et puis j'ai eu envie, en effet, de dépoussiérer cet auteur, parce que je pense qu'il mérite d'être lu à côté d'Huysmans, à côté de Wilde. Il a pas, à mon avis, il ne démérite pas à côté d'eux. Et puis en même temps, aussi marqué une dette, évidemment, parce que je ne sais pas si dans mon style, on retrouve Lorrain, mais en tout cas, on retrouve Lorrain sans doute dans certaines de mes préoccupations. Préoccupations sur les masques, sur les faux-semblants, sur ce que c'est finalement qu'un homme. Est-ce qu'un homme drogué est toujours un homme? Des questions qui sont posées dans mes polars, dans mes romans, dans mes... Et que Jean Lorrain posait déjà. Je ne pense pas les avoir posés de la même manière, mais Jean Lorrain est quand même extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'on a parfois, en le lisant, l'impression qu'on est en train de parler de notre époque.
Il est un mot qu'on retrouve souvent dans les pages de votre essai Jean Lorrain ou l'impossible fuite hors du monde, c'est le mot angoisse. Et tout le monde sera d'accord avec moi, nous vivons une période incertaine. Cette émergence de la pandémie a fait réémerger à la surface des angoisses sur lesquelles il est parfois difficile de mettre des mots. Et je me dis que la sortie de ce bouquin, la volonté de le publier aujourd'hui, a peut-être quelque chose à voir avec cette période d'incertitude et dont on dit qu'elle est anxiogène, anxiogène porteuse d'angoisse.
Oui, vous avez raison, je pense que le livre n'aurait pas paru s'il n'y avait pas eu un premier confinement, si tout à coup je ne m'étais pas... Parce que c'est vrai qu'en relisant mon essai sur Lorrain, je me suis fait à peu près la même réflexion, je me suis dit, mais tiens, ça répond à une certaine angoisse. Alors bien sûr que le texte était prêt avant, mais c'est quand même à ce moment-là qu'on a décidé, je pense que c'est ce qui a fait qu'Olivier Moratel y a été particulièrement sensible à ce moment-là, en plus il habite en France maintenant, donc il avait affaire à un confinement très dur, avec son attestation, avec son kilomètre réglementaire, etc. Donc il était aux premières loges de la gestion à la française, et donc l'angoisse faisait aussi partie de son quotidien, bien entendu, et du mien, mais de manière un petit peu moins significative. Et donc, peut-être qu'il a vu quelque chose, déjà parce que ça répondait à son angoisse, sans doute, et puis également aussi parce que Jean Lorrain est un auteur pour notre temps. On a dit qu'il faut les relire Camus. Il faut relire La Peste, bon, si on veut. Je pense qu'il faut aussi relire Lorrain aujourd'hui. Justement, vous avez mentionné l'angoisse. Et en effet, l'angoisse du monde tel qu'il est, l'angoisse du monde avec ses déterminations, avec ses arêtes, avec ses surfaces lisses, avec ses marécages, ça, c'est ce que semble nous indiquer Lorrain, tout en articulant des personnages qui essayent de fuir cette laideur du monde et cette angoisse du monde. Tous les personnages de Lorrain sont en marche, ils sont tout le temps en fuite, ils essayent de dépasser en quelque sorte ce monde, d'en sortir, et puis ils n'y arrivent pas. Je crois que c'est la grande morale finalement de Lorrain, c'est qu'on ne peut pas sortir hors du monde. Je ne veux pas faire de transposition un peu hasardeuse, mais je pense que c'est la même chose aussi pour notre temps. On ne peut pas, on a une pandémie qui nous est tombée dessus, on peut en critiquer la gestion, on peut ne pas être d'accord avec certaines décisions, on peut accepter, refuser, mais on ne peut pas faire en sorte qu'elle ne soit pas là. Et au fond, certains personnages de Lorrain, du Lorrain tardif, préfigurent déjà certaines réflexions de Sartre sur l'engagement, au bout d'un moment, les personnages de Lorrain se disent bon, on peut plus fuir. Donc si on peut plus fuir, ça veut dire qu'il faut accepter ou refuser. Et accepter ou refuser, mais c'est déjà être existentialiste, si j'ose dire. C'est-à-dire, et je pense qu'on a besoin à la fois de lire Lorrain et on a aussi besoin d'un peu plus d'existentialisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment, d'accepter, de refuser. Mais on ne peut pas rester dans une espèce de léthargie inquiète tout le temps. Je pense que là, on a quand même des décisions à prendre dans l'angoisse. Et au fond, Lorrain montre l'angoisse. Sartre dira qu'on décide toujours angoissé. Une vraie décision est toujours angoissée. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où on a besoin à la fois de décisions et on ne peut pas les prendre sans angoisse.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, quant à Mouron, le thème du masque et des apparences fait partie de vos sujets de prédilection, peut-être pourrions-nous dire même de vos sujets de fascination. Et le nom de Jean Lorrain est déjà un masque en soi, puisqu'il s'agit du nom de plume de celui qui s'appelait à l'état civil Paul-Alexandre Martin Duval. Et dans un avant-propos à votre essai, vous évoquez votre rencontre avec l'auteur sous l'angle de la séduction, j'insiste. Et vous-même, vous insistez sur ce mot comme si l'auteur lui-même, en tant que personne, vous avait séduit. Dites-nous de quoi est faite cette séduction qui vous a amené sur les travées de Jean Lorrain.
Lorrain a déjà quelque chose de très séduisant, à mon sens, parce que Lorrain est sans doute quelqu'un, un personnage très équivoque et qui aurait voulu être autre chose qu'il n'était. C'est-à-dire que l'écriture de Lorrain est très raffinée, parfois jusqu'à un maniérisme insupportable dans certains contes. Pas dans, ses romans sont des fois mieux tenus, mais dans certains contes, on a l'impression que ça s'étire insupportablement. Lorrain adorait se maquiller, il était bagué, il était impeccablement habillé, comme un gentleman, un dandy pur. Et puis il avait un physique qui n'allait absolument pas avec ses ambitions esthétiques, puisqu'il était immense, c'était un espèce de géant.
Un peu à la Oscar Wilde.
Un peu à la Oscar Wilde, exactement. D'ailleurs, ils se sont rencontrés, ils se sont entendus, et c'est pas pour rien. Je pense que les deux avaient déjà cette espèce de dichotomie entre leurs aspirations esthétiques et puis ce que renvoyait leur physique. Et ça, c'est quelque chose que Lorrain vivait, paraît-il, très mal. Il aurait voulu être Robert de Montesquieu, en fait, son ennemi. C'est-à-dire gracile, élégant. Or, il n'était pas ça.
Et c'est ce physique qu'on pourrait qualifier d'ingrat qui vous a séduit vous-même ?
Oui, d'abord, c'était ça. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a l'œuvre aussi, mais quand j'ai fait des recherches sur Lorrain, je voyais toujours ses photos, ses peintures. On le représente en plus de manière un peu caricaturale,
aussi,
exactement, de manière abominable. Et je me suis dit, mais tiens, il y a une telle tension entre ses récits et ses personnages et la personne de Lorrain. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à sa biographie de manière un petit peu plus... Et là, c'est vrai que j'ai découvert ce personnage sensible, irascible, très frustré sans doute, très frustré parce que le journaliste en lui était frustré l'écrivain. C'est-à-dire qu'il écrivait énormément de chroniques, il était débordé par les commandes de chroniques, seule manière d'assurer sa survie et puis un certain train de vie quand même. Et puis en même temps, je pense à aucun biographe ne l'atteste, c'est mon ressenti personnel qui se serait rêvé poète. Le modèle de Lorrain, c'est Baudelaire. Or, Lorrain n'est pas un très bon poète. C'est un poète quand même maladroit.
C'est quand même par la poésie qu'il a commencé sa carrière d'écriture.
Absolument. Absolument. Il commence par la poésie et on comprend pourquoi cette carrière a mis un petit peu de temps à décoller parce que c'est quand même pas très bon. Il y a un recueil que je trouve très intéressant qui s'intitule Les Modernités, encore que ça nous semble, disons, rétrospectivement original. À l'époque, il y en avait déjà quand même pas mal, des modernités, mais dont bien sûr celle des tableaux parisiens de Baudelaire. Ça, c'est un recueil intéressant. Le reste n'est pas très bon. Et au fond, moi, j'aime bien les hommes dans leur frustration. Je les aime bien aussi dans leurs empêchements. Je les aime bien dans leur flamboyance, mais j'aime quand cette flamboyance cache un peu de cendre. C'est-à-dire que c'est pas seulement de la flamboyance pour la flamboyance. Et Lorrain était un grand écorché. Et c'est quelqu'un qui a d'immenses cicatrices, qui s'imposait, qui imposait physiquement, qui en imposait même intellectuellement. Et puis en même temps, c'est toujours celui qui ne se plaira jamais, ni physiquement, ni même moralement, ni même intellectuellement. On a l'impression qu'il est en fuite perpétuelle. J'aime les hommes en fuite.
C'était aussi un grand toxicomane, il a tout essayé.
Oui,
notamment l'éther. Hein,
notamment l'éther, c'est l'éther qui l'a tué, parce que c'est l'éther évidemment qui lui a fait des ulcères abominables. Il est mort à 50 ans, ce qui n'est pas si vieux. Alors l'éther surtout, l'absinthe, enfin tout ce qu'on buvait.
L'opium peut-être aussi.
L'opium sans doute. En tout cas, ces récits attestent de... Un roman comme Monsieur des Focas nous montre aussi l'expérience du hashish, l'expérience de l'opium. Il semble qu'il ait aussi essayé absolument toutes les drogues. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est une époque, on l'oublie, parce que c'est vrai que pour nous, la drogue, disons, c'est resté un peu les années 60, 70, le rock, etc. Et puis on oublie aussi les excès, qui étaient des excès pas si amusants finalement de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que si on... Il faut bien voir qu'il y a quand même une différence dans la consommation de drogue chez les auteurs entre le début du 19e siècle et la fin du 19e siècle. Au début du 19e siècle, c'est le club des hachichiens, c'est Gautier qui fait ses récits d'opium, c'est l'orientalisme. Il y a quelque chose d'assez amusant, d'assez festif. On expérimente. Et puis avec l'éther, avec l'alcool aussi bon marché qui se déverse avec la révolution industrielle et tout ça, la consommation de drogue de la fin du 19e siècle fait des ravages immenses en fait sur les écrivains, parce que l'éther, c'est pas comme l'opium, c'est pas anodin, puisque c'est un espèce de désinfectant, un solvant qu'on donnait chez les dentistes, et qui crée des phénomènes d'accoutumance, des phénomènes de destruction de l'organisme, et puis c'est aussi là que l'héroïne commence à naître. Donc on arrive à la fin du 19e siècle avec une littérature plus angoissée, parce que les auteurs sont aussi plus angoissés. On parlait de l'angoisse tout à l'heure, il y a l'angoisse du monde moderne, mais il y a aussi l'angoisse de toutes les substances qui sont prises pour être simplement à la page, pour faire partie d'une certaine société, pour faire partie d'un certain gotha. Il fallait prendre de l'éther, il fallait prendre... Déjà, il y a les débuts de la cocaïne, les débuts de l'héroïne, la coco, comme dit Proust dans La Recherche du Temps Perdu. Donc, évidemment que tout s'aggrave en quelque sorte à la fin du 19e siècle, tout semble se casser la gueule.
En ouvrant votre étude sur Jean Lorrain, quant à Mouron, Jean Lorrain ou l'impossible suite hors du monde, on s'aperçoit que vous commencez cette étude en démontrant les liens qui unissent l'œuvre de Lorrain à la pensée de ses prédécesseurs, qui étaient Baudelaire et Huysmans, enfin Huysmans presque un contemporain quand même, et tous les trois ont tenté, c'est ce que vous mettez en avant, un refus du monde moderne dominé par la société industrielle. Alors ça, c'est une constante chez Lorrain, en tout cas dans ses premiers écrits et que vous développez dans ce premier chapitre.
Il y a deux choses qui, en fait, semblent opposées, mais qui pour Lorrain, pour Huysmans, pour Baudelaire, n'étaient pas du tout. Il y a un double rejet, rejet du monde moderne industriel et rejet de la nature. Et pour nous, ça semble, depuis les hippies, depuis les néo-hippies, depuis les citadins qui mangent bio...
Depuis Rousseau aussi,
depuis Rousseau, le 18e siècle. Oui, c'est vrai, mais Rousseau, il n'y avait pas encore la révolution industrielle. Mais c'est vrai qu'on a tendance à opposer notre imaginaire collectif deux choses, hein, c'est-à-dire la civilisation avec le monde moderne, le monde technique... Et puis de l'autre, la nature. Pour Baudelaire, pour Huysmans, mais avant eux pour Gautier, la nature, c'est justement ce qui, tout comme la technique, est fait de répétition. C'est la négation de l'exception.
C'est la multiplicité d'un même objet.
Exactement, c'est la multiplicité. Alors on dira dans la nature, c'est jamais pareil, mais à l'œil nu, ça semble pareil. Quand on a deux arbres, sauf quand on est face à une forêt, on a l'impression que tout a poussé pareil. Bon.
Il paraît qu'aucun flocon de neige ne ressemble à son voisin.
Oui, c'est vrai, mais quand on les a dans les yeux, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est seulement sous un tas de neige. Ouais. Et donc pour eux, en fait, il y a vraiment ce double rejet. Rejet de la nature, parce que c'est ennuyeux, ce qui est assez mon avis d'ailleurs, et rejet aussi de l'industrie, rejet du monde industriel, parce que aussi c'est ennuyeux, c'est répétitif, c'est avilissant. Et donc...
Que reste-t-il ?
Il reste l'exception, il reste l'aristocratie, justement, l'aristocratie non pas de sang, mais l'aristocratie d'esprit. Il reste l'œuvre unique, l'objet rare, l'objet unique, la tentative... du moi, de lutter contre le monde aseptisé et, au fond, l'unicité contre la série. C'est ce qu'essaye de jouer Baudelaire, c'est ce qu'essaye de jouer Huysmans, c'est ce qu'essaye de jouer Lorrain.
On pourrait appeler ça la distinction au sens premier du terme, se distinguer du semblable des autres.
Je crois que c'est exactement ça, c'est une forme de distinction. Il s'agit à chaque fois de dire non à la série. Et la série, c'est soit la nature, soit le monde industriel qui naît. Et il y a une vraie angoisse, un vrai rejet de ce monde industriel-là, et en même temps, il y a une fascination. D'ailleurs, on le voit bien, Lorrain intitule l'un de ses recueils de poèmes « Les modernités ». Il parle de tout ce qui fait un monde moderne, alors moins les usines, mais quand même tout ce qui fait la ville moderne. Baudelaire, bien sûr, aussi, parle de cette modernité. Donc on voit que ce n'est pas qu'un rapport de rejet, ce n'est pas seulement être réactionnaire pour être réactionnaire. Ce n'est pas le retour à la nature de Rousseau, justement. Et d'ailleurs, il y a de retour nulle part, puisque si on rejette le monde industriel, on ne peut pas non plus fuir dans la nature, on rejette aussi la nature, donc il reste que la distinction. Et cette distinction, pour exister, a besoin de la série, a besoin de la monotonie, parce que sinon, il n'y a pas de distinction s'il n'y a pas un contraste, s'il n'y a pas son opposé.
Et cette société industrielle a été créée par la classe sociale, la bourgeoisie. Et c'est cela aussi que met en avant Jean Lorrain, c'est le fait que cette bourgeoisie est une classe sociale infréquentable et il n'a pas de mots assez durs pour la qualifier.
Oui, Sartre a montré la duplicité de cette attitude dans un très bel essai sur Mallarmé qui n'est pas terminé malheureusement, mais il a écrit aussi un article là-dessus. Dans son Flaubert aussi, duplicité pourquoi ? Parce qu'au fond, tous ces auteurs sont des bourgeois et des bourgeois plutôt confortables. Alors Huysmans fait peut-être figure d'exception parce que Huysmans c'est carrément un petit bourgeois, c'est-à-dire un employé, un petit employé. Il incarne cette nouvelle classe sociale que sont les employés de bureau, les petites bourgeoisies de bureau. Mais c'est vrai que Lorrain vient plutôt d'une famille à l'aise. Baudelaire a eu des problèmes d'argent, mais il a aussi toujours quand même pu compter sur une famille relativement bourgeoise. Hein. Et donc au fond, la bourgeoisie sécrète son antithèse, qui sont souvent les poètes, qui en disent un mal abominable, qui en même temps ne font pas grand-chose pour la renverser, parce que, à part Jules Vallès, je crois qu'aucun auteur de la fin du 19e siècle a vraiment voulu renverser cette bourgeoisie. Au fond, il s'agit toujours de la griffer, il s'agit de donner des coups de couteau, et puis, quand le huissier frappe à la porte, on est quand même bien content de compter sur beau-papa qui a la Légion d'honneur. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu puéril, peut-être, dans cette, et qui nous semble rétrospectivement un peu adolescent, dans cette manière de fonctionner, mais eh bien, c'est normal, en quelque sorte, si on est un peu créatif, si on est un peu enflammé, si on a... une stature, un caractère, c'est normal de se retourner contre ce qu'on a de plus proche. Et donc c'est normal, évidemment, de se retourner immédiatement contre la bourgeoisie, même si on n'a pas envie forcément de renoncer à un certain confort matériel. Et Lorrain, il y a des bourgeois qui lui conviennent très bien. Et s'ils sont un peu élégants, s'ils ont des bagues, s'ils ont des parfums rares, s'ils jouent le jeu... S'ils sont distingués, exactement, là ça va. La figure du bourgeois, au fond, c'est plus qu'une classe sociale au 19e siècle, c'est vraiment plutôt un repoussoir. Flaubert, qui est l'auteur bourgeois par excellence, quand Flaubert parle des bourgeois, évidemment, il en dit beaucoup de mal, il n'a pas du tout dans l'idée une classe sociale. Il a plutôt l'idée d'une certaine tournure d'esprit, une certaine bêtise, un certain conformisme.
Vous citez à plusieurs reprises Quentin Mourant dans votre essai, notamment à propos des modernités, ces recueils de textes courts que vous avez cités tout à l'heure, un tropisme et une fascination sans doute de Lorrain pour ce qu'on pourrait appeler les bas-fonds, c'est-à-dire les marginaux, les prostituées, les garçons bouchers. Et j'ai l'impression que ce tropisme, on le retrouve aussi dans vos écrits. Il y a une sorte de proximité qu'on peut retrouver dans vos écrits et dans ceux de Lorrain.
Ah, dans ma vie aussi. Alors, je suis un peu moins garçon boucher, mais j'adore les PMU, par exemple. On n'est pas encore dans les bas-fonds avec les PMU.
Pas tout à fait. Il y a bien plus bas.
Il y a bien plus bas, naturellement. Mais j'aime bien toujours j'aime les endroits vivants. C'est pour ça que je suis pas très centre-ville, généralement, quand je sors. J'aime bien la périphérie parce que c'est plus vivant, parce que ça parle, parce que ça hurle. Et puis moi, je suis aussi un peu comme ça après deux verres. Donc, c'est vrai que j'aime cette vie-là. Et je pense que c'est ce qui fascinait Lorrain. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette fascination pour la mort, pour l'étrange, pour la maladie, pour la déréliction. Et puis, en même temps, il y a aussi chez lui la fascination de ce qui vit, ce qui est jeune, ce qui est beau, ce qui est turbulent. Il aime les luttes, il va voir les spectacles de lutte. Il aime quand ça se cogne. Peut-être que c'était d'ailleurs, ça correspondait aussi à sa physionomie de grand normand, comme ça, de grand pirate, ça. En tout cas, peut-être mieux que les délicatesses des salons de Pioinomane. Donc, oui, je pense que Lorrain a cette fascination de ce qu'on a appelé les bas-fonds. Maupassant, dans un article pour le Gaulois, je crois, en 1882, sauf erreur, écrit pour le Gaulois un très beau texte qui s'appelle La Bas-fondsmanie, où il explique que c'est pas par fascination du bizarre ou par envie de faire de la pornographie, puisqu'on appelait ces gens-là des pornographes, mais c'est bien parce que pendant des siècles c'était interdit. Et que maintenant qu'on a enfin le droit, que le réalisme a conquis le droit de parler des bas-fonds, eh bien, on peut pendant quelques générations au moins s'y attarder parce que ça permet de donner à cette partie-là de la société sa littérature.
Mais Jean Lorrain ne se posait pas en écrivain réaliste, il en avait plutôt horreur.
Oui, il en avait horreur, mais il est quand même... Tous les auteurs, les anti-réalistes, ont profité des acquis réalistes et naturalistes. C'est-à-dire que la guerre de tranchées entre naturalistes et symbolistes, c'est une guerre quand même... En trompe-l'œil, c'est une guerre surtout pour Manuel Scolaire, c'est-à-dire que Mallarmé et Zola étaient très bons amis. Lorrain, dans les modernités, dédie plusieurs de ses textes à Zola. Huysmans, c'était vu comme le sous-chef de file des naturalistes avant sa conversion symbolico-mystique dans un rebours. Donc, au fond, et puis, tout ça, c'était à Paris, dans un certain nombre de bars extrêmement réduits. Donc, tous ces gens-là se croisaient, se pratiquaient, s'influençaient. Et puis, la brèche ouverte par les réalistes pour enfin se dire on parle de toutes les strates de la société et pas seulement d'une société idéalisée, ça, c'est quelque chose que les auteurs décadents, pas tous, mais certains en tout cas, vont retenir.
Alors, auteur décadent, qu'est-ce que ça veut dire, ça, auteur décadent? D'où vient ce terme?
J'en sais rien. Je crois que c'est... Non, c'est-à-dire que c'était, comme d'habitude, une injure, j'imagine, comme toutes les étiquettes du 19e siècle. Je dis j'en sais rien parce qu'au fond, je pense que les auteurs ne le savaient pas eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que décadent, c'est pas forcément des gens qui parlent que de drogue, et puis de femmes, et puis de course-poursuite en voiture, ou je sais pas quoi. C'est pas ça, c'est pas cette idée-là.
Décadence, perversion, ce sont deux mots qu'on peut rapprocher dans notre inconscient collectif.
Il y a aussi l'idée de décadence de la race au sens de la lignée, pas au sens de de l'ethnie, mais...
Fin de race.
Voilà, exactement. Fin de race, fin de siècle. L'idée qu'on arrive au bout de quelque chose, qu'on arrive en fait à une seconde décadence après la décadence romaine, que tout à coup, cette fin du 19e siècle, c'est la décadence d'un certain Occident. Et ces auteurs qui prêchent ces idées-là, mais ils sont extrêmement divers et souvent très opposés, on les a rangés de manière assez commode sous l'étiquette décadent. Si je devais écrire un manuel de littérature, Dieu m'en garde, je ne l'utiliserais pas parce que c'est extrêmement confus. Parce que je vois pas. On a des auteurs aussi différents que Barrès, que Lorrain, que Huysmans. On peut même dire que Baudelaire préfigure aussi ce décadentisme. Donc, toutes les étiquettes d'ailleurs en littérature sont toujours mal commodes.
Aujourd'hui, on parle plutôt de déclinisme, des auteurs déclinistes. À l'époque, c'était décadent, mais ça ne relève peut-être pas de la même logique.
Alors, je connais mal la question du déclinisme, mais c'est vrai que j'imagine que ça relève toujours d'une logique similaire, c'est-à-dire l'idée qu'on arrive à la fin de quelque chose et que cette fin n'a aucune noblesse, c'est-à-dire que c'est une fin qui se traîne et il va falloir attendre environ la Première Guerre mondiale pour qu'on passe à autre chose, en quelque sorte.
Mais il y a aussi un fait important, ça touche peut-être plutôt votre éditeur Olivier Moratel, Quentin Mourant. Sur un bandeau qu'on trouve autour de ce livre, on peut dire « au-delà de la décadence ». Donc c'est quelque chose qui est censé accrocher le lecteur. Que trouve-t-on au-delà de la décadence?
Eh bien on trouve, et c'est au fond c'est pas une leçon, mais enfin c'est ce qu'on trouve quand même à la fin de ce livre. C'est ce qu'on trouve aussi à la fin de la trajectoire de Lorrain, de la trajectoire littéraire de Lorrain. Ce sont des personnages qui constatent qu'ils ne peuvent pas fuir hors du monde, que les angoisses, ça va un moment, mais qu'on ne peut pas rester dans l'angoisse permanente, on ne peut pas rester dans l'espoir de la fuite, puisqu'il n'y a pas d'espoir de fuite. Ça, c'est la première chose. Alors on peut se dire, bah là c'est l'horreur, il n'y a plus que le suicide. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la solution que va préconiser Laurin, et ce n'est pas la solution que les auteurs un peu plus jeunes que Laurin vont préconiser. Les auteurs comme Laurin, comme Huysmans, même Maupassant, sont très influencés par Schopenhauer, qui traverse en France sous forme de bas morceaux, en quelque sorte. Hein, donc tous les morceaux les plus noirs, les plus tristes, les moins métaphysiques, les moins virtuoses, c'est-à-dire les plus simples à retenir. Il y a le même principe, 10 ans plus tard, avec Nietzsche. Et là, les auteurs commencent à lire Nietzsche, je pense à Gide particulièrement, quand il écrit « Les nourritures terrestres ». Et c'est au fond ce vitalisme-là qui va sauver les écrivains. Et c'est cette grande leçon, en quelque sorte, qu'on peut tirer de cet immense cheminement de Laurin à travers la décadence. C'est-à-dire qu'au bout de la décadence, il y a deux possibilités. Il y a soit le refus du monde, et puis là-bas, c'est la mort, ou il y a l'acceptation du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir, le monde est tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il est un monde de répétition, il est un monde souvent ennuyeux, il est un monde où le faste n'a pas toujours lieu, il est un monde où il n'y a pas que de l'exception, il n'y a pas que de la distinction. Et c'est dans ce monde-là qu'on peut aussi se réorganiser et vivre. Et il y a une possibilité de vivre dans ce monde-là, de vivre avec ce monde-là. Ce n'est pas une réconciliation au sens où on se dit bah, tout le monde est bien, tout le monde est joli. Ce n'est pas le développement personnel, on se roule sur une carpette 3 fois, puis on se dit que c'est bon. Chez Nietzsche, ce n'est pas ça, bien sûr. Il y a l'idée d'un dépassement au sein du monde, d'un dépassement de l'homme par l'homme, bien sûr. Même si Laurin ne conceptualise pas ça, il a lu Gide, le tout jeune Gide, bien sûr, puisque Gide, c'est la génération d'en dessous. Et un peu maladroitement d'ailleurs, dans Monsieur de Focas, qui est l'un de ses derniers livres, il permet à son personnage principal cette réconciliation avec le monde. Ce qui n'était pas du tout attendu. D'ailleurs, ça sonne un peu comme une fausse note à la fin. On se demande où il veut en venir, mais on peut voir que Laurin, en quelque sorte, tout à coup, prend aussi conscience que les masques, l'angoisse, on peut pas tenir tout le temps par l'angoisse.
Et c'est pour cette raison, Quentin Mouron, que la dernière phrase qui vous appartient dans cet essai est « Il ne s'est tourné vers la vie qu'au moment où la vie l'abandonnait ». Vraiment un destin cruel, Jean Laurin.
Oui, parce que Jean Laurin a essayé de faire exactement comme son personnage. C'est pour ça que je me suis permis une hérésie de la critique littéraire, c'est-à-dire de traiter les personnages et l'auteur à peu près sur le même pied hein, dans cet essai. Laurin, en effet, tente de faire comme son personnage, c'est-à-dire qu'il fuit, il va à Nice, il retrouve le soleil, il prend des bains de mer.
Dans un élan vitaliste.
Exactement, dans un état vitaliste affirmé. Il veut quitter le cloaque de Paris, il veut quitter tout ça. Et puis bon, bah, évidemment, ça se passe mal, parce qu'à Nice, on trouve tout autant d'éther qu'à Paris. Il replonge, l'alcool, les balles, les mondanités. Il y a quelques comtesses cocaïnomanes sur la Riviera qui l'accueillent. Il voit quelques amants, mais déjà plus beaucoup. Et puis finalement, il meurt seulement, uniquement avec sa mère, hein, qui est venue, une mère très dévouée, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui l'a accompagnée, soutenue dans ses excès, enfin soutenue sans doute de manière avec réprobation, mais qui l'a accompagnée jusque sur son lit de mort. Et il meurt en effet au moment où il aurait voulu se réconcilier avec le monde, sans doute, mais le monde n'a pas voulu se réconcilier avec lui.
Dans cet essai, Quentin Mouron, vous consacrez de nombreuses pages à analyser la fascination pour le masque dans l'œuvre de Jean Laurin et sans doute toute la symbolique qui va autour. Lui-même d'ailleurs a signé, vous le signalez dans ces pages aussi, un recueil de récits intitulé « Histoire du masque ». Pourquoi une telle fascination pour le masque chez Laurin et peut-être aussi chez vous? Est-ce qu'il y a une espèce d'hérédité qui s'est formée entre l'auteur, votre ancêtre et vous-même?
En période de pandémie, c'est très polysémique cette question de masque, ou polyvoque, Pour Laurin, je crois que je peux répondre. À mon sens, ce qui fascine Laurin dans le masque, c'est justement que tous les masques, finalement, se ressemblent.
On ne peut pas dire le contraire quant à l'actualité du moment.
Exactement. Là, je pense qu'on peut vraiment être d'accord.
Il y a peu de fioritures.
Exactement. C'est ça. Mais je crois que c'est ça. C'est que pour Laurin, le masque, d'ailleurs, c'est un moment d'exception, normalement, parce qu'on le met quand on va au bal. Donc, ce n'est pas tous les soirs, a priori, qu'il y a un bal. Mais une fois que chacun est au bal, en quelque sorte, toutes les exceptions s'annulent parce qu'il reste quoi? Il reste 2 trous dans lesquels on voit sortir les yeux. Et puis, bah, le reste, tout le monde devient anonyme, tout le monde est masqué derrière du tissu, même si les masques sont différents, en quelque sorte, on a l'impression que les visages s'annulent. C'est comme si, au fond, on parlait de distinction, tous les visages sont différents, c'est comme ça qu'on se reconnaît, c'est comme si on n'arrivait plus à reconnaître les gens, c'est-à-dire qu'ils avaient été réabsorbés par la série. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais que c'est ça quand même qui a fasciné Laurin, c'est qu'il lisait dans ses bals masqués, en quelque sorte, tout ce qui lui faisait horreur dans le monde moderne, c'est-à-dire l'annulation de la distinction, l'annulation
de
du caractère, l'annulation de l'identité. Et je crois que c'est ça qu'il y a derrière la question du masque et la question des bals masqués qui est vraiment l'un des topos de Laurin, c'est l'idée de la perte d'identité. qui le fascine parfois, parce que l'idée de la perte d'identité, c'est de pouvoir aussi jouer une autre identité que la sienne. Et ça, c'est quelque chose qui le fascine. Laurent est un homme de théâtre, il a écrit des pièces. Mmh. Il a...
Pour Sarah Bernard, d'ailleurs, non ?
Oui, exactement, qu'elle le refusait de jouer souvent. Mais il a écrit des pièces, il a critiqué énormément de pièces, surtout contre les pièces de metteurs en scène plus célèbres que lui. Il aime ça, mais en même temps, ça l'effraie, cette manière dont on peut jouer, dont on peut changer son physique, dont on peut se dissimuler, dont on peut... Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'angoisse. C'est pour ça que souvent, pour Laurent, il y a le couple qui fonctionne très bien, c'est le couple masque-éther, parce que les personnages prennent de l'éther, et puis, tout d'un coup, ils lisent autre chose sur les masques, ils ont l'impression que les yeux ont disparu, ils enlèvent le masque, il n'y a plus de visage. Et ça, c'est quelque chose, en effet, qui fascine Laurent, c'est l'idée que le visage disparaît complètement derrière le masque.
Et dans vos livres à vous, pourquoi cette fascination pour le masque ? Est-ce qu'il ressort de la même angoisse, de la même peur que celle de Jean Laurin ?
Je crois que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pris très rapidement, dès le premier roman. Avec ce texte, on arrive un peu, à mon avis, à la fin, pas que c'est la fin de la fascination, mais je pense que j'ai beaucoup dit de choses.
Vous avez fait le tour du sujet.
C'est ça, dans Vesoul, j'en ai déjà plus parlé, mais c'est vrai que, disons, depuis Au point d'effusion des égouts jusqu'à L'âge de l'héroïne, j'en ai parlé dans à peu près tous mes romans. Ce qui m'intéresse avec la question du masque, c'est que c'est la question de la dissimulation. Il y a la question de la dissimulation aux autres et aussi à soi-même. Et bien sûr, avec le masque, il y a la question de l'hypocrisie. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que...
C'est la dissimulation.
C'est la dissimulation. Hein, un hypocrite, c'est quelqu'un qui a un masque et qui parfois confond aussi ce masque avec la réalité. Et je pense que c'est ça qui m'a intéressé dans mes précédents livres. C'est l'idée que parfois, non seulement les personnages mentent aux autres, mais ils finissent aussi par se mentir à eux-mêmes et à tel point qu'ils ne parviennent plus à faire la distinction entre le masque et le visage. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ce moment. Et c'est pas seulement, on pourrait, en termes cliniques, essayer de qualifier ça, c'est de la mythomanie. Mais je crois qu'il y a, pour chacun d'entre nous, il y a un moment, justement, où on n'arrive plus à faire tout à fait la différence. C'est-à-dire que, à force de raconter quelque chose, d'améliorer quelque chose par nos discours, ou alors au contraire d'empirer quelque chose, on finit par croire ce qu'on dit. On finit par devenir notre masque. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est ce moment où il y a confusion. Et ça, je l'ai vécu après mon premier roman, qui se présentait comme un roman, bien sûr, mais qui était écrit à la première personne, où je racontais un certain nombre de choses qui m'étaient arrivées quand je voyageais aux États-Unis. Mais bien sûr, beaucoup de choses étaient inventées. Et parfois, aujourd'hui, 10 ans après ce voyage que j'avais fait aux États-Unis, et 9 ans après la publication de ce premier roman, je ne suis plus tout à fait certain de ce qui a été vraiment vécu ou de ce qui a été simplement inventé. Et je pense que ça a donné raison, en quelque sorte, à mes intuitions que j'avais à ce moment-là. Parce que le masque, ce n'est pas seulement... à mon sens, une entreprise de dissimulation qui serait le lot de quelques gens un peu menteurs, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie intrinsèquement de notre condition humaine. Je pense qu'on est masqué, en quelque sorte, c'est-à-dire que, au sens de naître et au sens d'être. C'est-à-dire que c'est une dimension aussi de l'existence, c'est le masque, c'est le jeu.
Vous parliez tout à l'heure des bals masqués qui étaient très courus à la fin du 19e siècle et début 20e. Et en ce temps-là, on portait souvent des loups, c'est-à-dire des demi-masques qui cachaient la partie supérieure du visage. Aujourd'hui, la situation est complètement inverse parce que les masques que nous portons à journée faite ici dans nos studios et dans la rue masquent uniquement la partie inférieure du visage. Et j'ai l'impression que le rendu et la perception de cette dissimulation est différente.
Oui, ça sans doute. Je ne sais pas ce que Laurin aurait dit de cette époque, honnêtement. Alors, il aurait sûrement vu de la décadence, hein, mais il faut bien voir que la décadence, c'est toujours aussi une angoisse. Ce n'est pas forcément une réalité. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on est dans un moment de décadence qu'on est, on y est vraiment.
Oui, là, ce n'est pas fin de siècle, c'est début de siècle, mais peut-être
voilà.
Que c'est...
Ça oui, mais on a, je crois qu'on a une fin de 20e siècle qui traîne, oui. Mais on a un peu de mal à commencer le 21e. Moi, ma grande question, c'est dans quelle mesure est-ce que tout ça, tout ce qu'on vit maintenant avec les masques, avec le Covid... Le confinement. Dans quelle mesure est-ce que ce sera vraiment une matière littéraire ? Pour l'instant, en tout cas, c'est très absent de tous mes textes, de tous mes livres, parce que j'ai l'impression, en tout cas, que ça ne va pas
des
être...
Des vôtres, mais croyez bien que d'autres s'en sont accaparés depuis un moment, depuis le printemps, d'ailleurs.
Oui, mais ce qui m'intéresserait, c'est... Enfin, je vais estimer que c'est une matière littéraire quand on m'aura montré un bon livre qui parle du confinement. Parce que c'est vrai que si c'est
ce sont beaucoup des journaux du confinement.
Hein. Oui, voilà, ou quelques essais par-ci, par-là, mais souvent un peu mal foutus, où chacun essaie d'amener son petit grain de sel... Moi, j'attends de voir. Quand j'aurai eu un bon texte littéraire qui me parle du masque, qui me parle du confinement, qui me parle de ce qu'on a vécu là, je serai heureux. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pour l'instant quelque chose où il n'y a pas trop à dire. Alors, il y aura à dire peut-être sur certains moments de folie, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui pèse sur la santé des gens. Moi, je vois des comportements de plus en plus aberrants, déjà sur les réseaux sociaux, dans la rue. Il y a des choses qui commencent à bouger, me semble-t-il, qui sont évidemment liées à la situation actuelle. Je ne sais pas si ça va donner un grand sujet. Je vois mal faire un grand poème épique sur le fait qu'on entre à la Migros le matin avec un masque et puis qu'on doit se laver les mains puis que ça brûle un petit peu parce qu'on s'est trop rongé les ongles. Donc je sais pas. Pour l'instant, j'espère pouvoir une fois écrire un texte j'aime bien parler quand même du monde tel qu'il est, donc peut-être que j'en parlerai une fois, mais pour l'instant, ça me semble un non-sujet.
Avant de nous quitter, Quentin Mouron, il faudrait dire quand même deux mots sur cette nouvelle édition d'un roman que vous avez publié en 2016 aux éditions La Grande Ours, aujourd'hui disparu, L'âge de l'héroïne, et que vous avez réécrit, remanié, pour le faire suivre de cet essai dont on vient de parler, Jean Lorrain, ou L'impossible fuite hors du monde. De quelle manière l'avez-vous réécrit? De quelle manière l'avez-vous réabordé quelques années plus tard, sans doute à la lumière de ce que vous avez découvert dans l'œuvre de Jean Lorrain?
Oui, et puis aussi, je crois, la lumière de ma complicité avec Olivier Moratel, qui m'a aussi beaucoup épaulé pour cette réécriture. Donc ça, c'était très élégant de sa part, parce que c'est vrai que c'est un livre que lui, originellement, n'avait pas publié. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que j'étais à ce moment-là chez un autre éditeur. Et puis, moi, je l'avais toujours dit, j'avais jamais caché que pour moi, L'âge de l'héroïne n'était pas vraiment un roman policier ou un polar, comme on le présentait parfois.
Donc pour vous, c'était une manière de lever ce malentendu?
Oui, je crois que c'était pas non plus d'ailleurs la volonté de La Grande Ours, c'est simplement comme c'est sorti, c'est moi qui ai fait l'erreur, parce que c'est sorti après Trois gouttes de sang, qui ressemble quand même déjà plus à un polar, j'ai repris le même personnage, et puis j'ai refait un livre. Donc évidemment, je comprends bien qu'on se dise, c'est la suite, c'est un roman policier. Et puis, il y a deux, trois types qui se tirent dessus. Bon, ça commençait par une enquête qui en fait n'allait nulle part, c'était le but. Alors j'avais essayé de montrer au lecteur que c'était pas un roman policier parce que je commençais comme un polar, puis en fait tout avortait. En fait, le lecteur n'a pas toujours compris.
C'était une manière de vous jouer des codes du polar.
Mais beaucoup de lecteurs qui attendaient leur vrai polar m'ont dit on se fout simplement de ma gueule, c'est tout. Donc je me suis dit j'ai raté mon coup. Et puis tout ce passage, j'essaie de détourner l'attention du lecteur, le jeu avec le lecteur, je trouvais peut-être pas si réussi. Je crois que c'était le passage le plus faible du roman. Je cache pas que je préférais la deuxième partie. J'aimais beaucoup le début de la première. Et puis, on s'est dit, il y aura simplement un espèce de faux départ, mais sans qu'on commence non plus une enquête. Donc, il y a toute une partie qui a été réduite. On garde ce qu'il y a de flamboyant dans la première partie, mais dès la suite, on part déjà dans le désert. Et là j'ai beaucoup moins retouché. J'ai fait quelques petites retouches cosmétiques, mais il y a beaucoup moins de retouches. Mais on a l'impression de lire un autre livre parce que justement, on est plus. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens me disent, mais on a l'impression que tout a changé. Et j'avais pas vu ça de la même manière la dernière fois. Mais je pense que parce que la plupart des gens, quand ils l'ont lu, ils étaient justement dans ce conditionnement polar. Donc ils le lisaient, ils faisaient attention à tout ce qui semblait être de l'ordre de l'intrigue. Or, quand ils l'ont relu, comme on a changé le début, ils le lisent d'une manière complètement différente. Avec, en plus, il est placé avec cet essai de Lorrain, donc ils le lisent comme un vrai roman décadent, avec ses outrances, avec ses violences, ses fulgurances, mais sans essayer de le passer au tamis du roman policier.
Dans ce roman qui n'est pas policier, il y a toujours ce personnage qui s'appelle Franck, détective privé, cocaïnomane, donc complètement toxicomane, et bibliophile. Et c'est un personnage, à la lumière de l'essai que vous avez consacré à Jean Lorrain, c'est un personnage qui ressemble beaucoup à ceux qu'on trouve dans les romans de Jean Lorrain, et notamment dans Monsieur de Focas et Monsieur de Bougrelon. Donc en ça, vous assumez complètement cet héritage entre l'œuvre de Lorrain et la vôtre.
Oui, absolument. Et il y a vraiment un lien, j'ai emprunté même des motifs entiers dans mes deux romans. Bon, je ne l'ai jamais caché d'ailleurs, mais à Jean Lorrain, à Huysmans, à Péladan, à pas mal d'auteurs que je lisais beaucoup à ce moment-là, que je lis un petit peu moins aujourd'hui, même si je me suis empressé d'acheter Huysmans quand il est paru en Pléiade, et que dès que quelqu'un me met à la main sur Jean Lorrain, il m'envoie et je le lis, parce que les livres sont rares. Donc je lis encore ces auteurs, mais c'est vrai qu'ils m'ont, à un certain moment de ma vie et de mon œuvre, ils m'ont vraiment inspiré littérairement, si j'ose dire. C'est-à-dire pas seulement du point de vue du style des idées, mais vraiment aussi du point de vue des personnages, comme vous venez de le dire. Franck, c'est un personnage qu'on aurait tout à fait bien vu se balader dans la France du 19e siècle. Alors, il n'aurait peut-être pas eu son pistolet mitrailleur, il n'aurait pas eu un jeune page qui joue à Candy Crush, mais il aurait quand même tout à fait pu faire partie de ces personnages un peu équivoques, inquiétants, qui commettent des meurtres parce qu'ils estiment que c'est un des beaux-arts, parce que, etc. Hein, tout ça.
L'art pour l'art.
Exactement. Il y a quelque chose de très art pour l'art, exactement, chez Franck. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment mettre en scène parce que je trouve que ce sont des personnages fascinants. Et comme j'avais fait ce lien entre notre époque et le 19e siècle, eh bien, j'avais envie de faire aussi un trait d'union. Hein, c'est parce que le Franck, c'est le trait d'union entre le 19e siècle et le 21e siècle.
Une dernière question, Quentin Mouron. Question logistique. Faut-il d'abord lire l'essai et ensuite le roman, comme la succession le propose dans ce livre, dans ce volume, ou d'abord le roman et ensuite l'essai consacré à Jean Lorrain?
Moi, je pense qu'il faudrait plutôt lire le roman d'abord, l'essai ensuite. Et je pense que à la lumière de l'essai, ensuite, on va voir plein de choses qu'on n'aura peut-être pas vues dans le roman. Puis après, on peut relire le roman, comme il est très court, on peut le lire deux fois. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile de commencer par le roman. Ça dépend tout de ce qu'on attend, de ce qu'on cherche. Je suis tombé sur plein de gens fans de Jean Laurent, parce que c'est vrai qu'ils sont peu nombreux, mais alors ils sont fervents, qui m'écrivent. Comme le livre n'a pas encore paru en France, eh bien, ils peuvent pas encore l'avoir, donc ils attendent. Les Suisses aussi m'écrivent, beaucoup de gens m'écrivent qu'ils ont adoré parce qu'ils se retrouvent dans Jean Laurent. Donc c'est clair que pour ces passionnés-là, les passionnés du 19e siècle, les passionnés de Oscar Wilde, les passionnés d'Huysmans, les passionnés de Baudelaire, de Laurent, il faut qu'ils commencent par l'essai. Par contre, c'est vrai que celui qui aime la littérature, mais qui peut-être se sent un petit peu intimidé par un essai qui porte sur un auteur qu'il n'a pas encore lu, je lui conseille de commencer par le roman et de passer ensuite à l'essai, même si c'est pourri, jeter un œil.
Quel que soit l'ordre de lecture, les passionnés et de Jean Laurin et de Quentin Mouron liront Jean Laurin ou l'impossible fuite hors du monde, c'est un essai, suivi de L'âge de l'héroïne, deuxième édition, Romagné. Merci Quentin Mouron.
Merci Jean-Marie Félix, merci pour votre invitation.
Vous avez précisé encore que c'est une édition de chez Olivier Moratel, votre ami.
Qu'on salue bien, exactement, qui sera à notre écoute.